Pour faire plusieurs petites lectures dans le même livre, le livre de l'Exode, nous commencerons d'abord au chapitre 2 à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Exode, chapitre 2, verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Nous allons un peu plus loin au chapitre 4. Et nous allons commencer à partir du verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur. » Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Puis un dernier passage, cette fois au chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna et il l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, je voudrais juste pendant quelques instants, avant que nous puissions poursuivre dans la prière et également dans la louange, tellement nous avons besoin d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, j'aimerais quand même partager quelques pensées à partir de ce qui pourrait être le titre de cette méditation, prendre des décisions et subir les conséquences. Il y a des décisions dans la vie qui sont très importantes à cause des conséquences aussi qu'elles peuvent entraîner une fois qu'elles ont été prises. Et l'une de ces décisions dans la vie est le mariage. Et nous allons nous efforcer de trouver un enseignement à partir de cette expérience qui a été faite par Moïse lui-même. Alors, pour commencer, nous allons essayer de déterminer dans quelles circonstances Moïse a rencontré pour la première fois celle qui devait devenir sa femme. Moïse était un homme qui était dans un état de souffrance. Vous savez qu'il avait pris une décision, une décision qui est très honorable, celle-là, elle valait vraiment la peine d'être prise. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle dans son chapitre 11 que Moïse, c'est par la foi qu'il a pris en considération la situation du peuple de Dieu et qu'il a même considéré que l'opprobre de Christ au travers de l'esclavage de ce peuple, le peuple d'Israël, était plus préférable, je dirais, à la richesse de l'Égypte. Et il a tourné le dos volontairement à tout ce qui pouvait se projeter dans son avenir en tant que bras droit de Pharaon en Égypte, et il a pris la décision de venir au secours de ce peuple. Au départ, bien sûr, il y a eu quelques maladresses que vous connaissez, mais ce n'est pas mon propos en cette soirée, je ne m'étendrai pas longuement là-dessus, mais il est vrai qu'à un moment donné, il a vu un Égyptien qui se querellait avec un Hébreu et il a décidé de faire mourir cet Égyptien qu'il a ensuite caché dans le sable. Et il pensait bien sûr que personne n'avait remarqué son geste. Mais le lendemain, il a vu deux de ses frères hébreux qui se disputaient. Alors il est allé vers eux et il leur a simplement dit « Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Quelle est la raison pour laquelle vous vous en prenez l'un à l'autre de cette manière-là » Et l'un des deux s'est retourné vers Moïse pour lui dire « Mais est-ce que tu as été établi juge sur nous? Voudrais-tu en éliminer un ici comme tu l'as fait hier en tuant l'Égyptien ?» Et d'un seul coup, ça a été une révélation pour Moïse, lui qui pensait qu'il avait réussi à cacher à son acte, eh bien, d'un seul coup, il se sent profondément perturbé et il va prendre la fuite parce qu'à partir de ce moment-là, Pharaon cherchait à le faire mourir. Alors, c'est un homme dépité, c'est un homme peut-être même déprimé qui a pris la route, qui s'est éloigné de l'Égypte et puis il arrive jusque dans ce territoire de Madian. Et tandis qu'il est là en train de se reposer, peut-être à cause de son voyage près d'un puits, il voit arriver les filles de Réuel. Alors, je voudrais juste en passant vous dire ceci. Réuel, c'était le nom de cet homme qui a une bonne signification. En réalité, c'est ami de Dieu. Pourtant, c'était un étranger. Mais il avait un autre nom que nous trouvons aussi dans la parole de Dieu, c'est Jéthro. Et Jéthro, c'est plutôt un titre. Réuel, c'est son nom. Jéthro, c'est un titre parce que ça signifie excellence. Un peu comme quand on s'adresse à certains diplomates et qu'on utilise aussi cette expression excellence. Ça veut dire donc que Jéthro était une haute dignité dans son pays, en tous les cas un haut dignitaire dans son pays, et il avait l'estimation certainement de beaucoup de personnes dans son entourage. Mais Jéthro donc avait ses filles qui se sont approchées de ce puits parce qu'elles avaient tout un troupeau qu'elles gardaient, et au moment où elles s'apprêtaient à donner à boire à leur troupeau, des étrangers sont arrivés, vous avez lu avec moi, et ils ont essayé par tous les moyens de prendre la place de ces filles, et finalement, c'est Moïse qui a eu une attitude chevaleresque. Cet homme, eh bien, a pris la défense de ses filles et il a donné à boire à ce troupeau. Et ses filles ont dû être fort étonnées que l'Égyptien agisse de cette manière-là. Il avait eu un comportement qui était vraiment normal, honorable. Et ses filles sont parties, mais en entrant à la maison, le papa a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fini le travail plus tôt que d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elles ont expliqué donc ce qui s'est produit et Jéthro, vous voyez quand même cet homme qui avait certainement, je dirais, l'habitude d'exercer l'hospitalité, n'a pas supporté que les filles, par, je dirais, manque de reconnaissance, eh bien, l'avaient laissé livré à son sort. Et il a dit, mais allez trouver cet étranger, dites-lui de venir ici, au moins qu'on lui exprime notre reconnaissance. Et Moïse s'est laissé faire, et par voie de conséquence, il a trouvé non seulement un domicile, il a trouvé un travail, parce que Jéthro lui a offert la possibilité de servir dans sa maison, et il a trouvé une épouse. Cette épouse, eh bien, c'est Séphora. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Moïse est un enfant d'Israël. Moïse connaît l'alliance qui a été passée entre Dieu et Abraham. Et là, il prend une étrangère. Il prend Séphora, qui est une Madianite, une Cushite, comme cela est révélé dans un autre texte de la parole de Dieu. Et là, il est dans une voie qui n'est pas tout à fait conforme à la volonté de Dieu. Cependant, j'ose croire quand même que Dieu avait dirigé toutes choses. Et vous allez voir pourquoi je dis cela. Parce que ce n'est pas au commencement que cette femme a eu un comportement digne de ce serviteur de Dieu authentique qu'est Moïse. Et d'ailleurs, elle va le prouver dans un moment particulier où la parole de Dieu nous révèle que, justement, Moïse a eu une révélation de la part du Seigneur. Et il a eu l'appel de Dieu. C'est sûr qu'il savait ce à quoi Dieu l'appelait depuis longtemps. Il avait quitté l'Égypte et il savait qu'il devait être le libérateur d'Israël. Il ne savait pas encore comment cela allait se produire. Dieu ne lui avait encore pas parlé d'une manière aussi directe qu'il l'a fait ensuite, comme vous le savez, au travers du buisson ardent. Ce buisson qui était en flamme et qui pourtant ne se consumait pas. Et Dieu lui a confié une mission. Et vous savez aussi quelle a été la réticence de Moïse à l'appel de Dieu. D'une part, il savait que Dieu allait l'utiliser comme un libérateur, mais par ailleurs, quand au moment précis où Dieu lui dit « c'est le moment, il faut y aller », comment réagit Moïse ? « Seigneur, pas moi, un autre. Je suis un homme à la langue embarrassée. » Pas moi. Et il a résisté ainsi à la direction que Dieu lui donnait jusqu'à ce moment précis où il a fallu que Dieu, selon ce que dit la Bible, eh bien, a été enflammé de colère. Et il lui a dit, eh bien, puisqu'il en est ainsi, eh bien, voilà, il est à côté de toi, ton frère, c'est lui qui parlera. Mais toi, tu feras les signes. Et vous savez quels sont les signes que Dieu avait donné comme pouvoir à accomplir par Moïse. Et notons juste, j'ouvre une parenthèse, c'est dommage qu'il ait placé davantage la confiance en Aaron qu'en Dieu, qui pouvait, malgré sa faiblesse apparente, l'utiliser et manifester sa gloire. Parce que, comme vous le savez aussi bien que moi, c'est Aaron, celui sur lequel il s'est appuyé, qui plus tard, eh bien, a été celui qui a fait le veau d'or. Et probablement que ça a dû être une grande souffrance pour Moïse que de voir que son propre frère était tombé, poussé par le peuple dans l'idolâtrie. Mais revenons à notre histoire. Moïse, finalement, a compris et il se met en marche. La parole de Dieu nous dit, il part. Finalement, il obéit et il prend avec lui Séphora et il prend avec lui ses deux enfants. L'un s'appelle Gershom, l'autre Éliézer. Gershom parce qu'il habite un pays étranger et ça signifie bannissement. Il avait été rejeté de l'Égypte par le roi Pharaon et il était arrivé dans ce pays dans une certaine tristesse. Mais Dieu était venu à son secours. Alors il donne d'abord le nom de Gershom à son fils aîné. Il obtient un deuxième enfant. Il lui donne le nom d'Éliézer qui est une bénédiction. Parce que finalement, ce nom signifie que Dieu, eh bien, est un secours pour lui. Et comme il l'a secouru, eh bien, il donne ce nom à son deuxième fils. Et le voilà maintenant en marche. Il obéit enfin à Dieu. Et écoutez bien, vous le savez, je le sais. C'est au moment où il part pour retourner en Égypte, accomplir enfin ce que Dieu lui a demandé de faire, qu'il se passe quelque chose pendant le voyage d'étonnant. Dieu a insisté auprès de Moïse et il lui a dit « Va !» Maintenant il va, et vous avez lu avec moi ce qui est dit dans le texte. Il est dit « Dieu voulut le faire mourir une certaine nuit dans l'endroit où il s'était arrêté avec sa femme et ses enfants. » Et il était tellement mal que certainement, sans l'intervention qu'il y a eu, eh bien, Moïse serait mort. Alors, nous, on pourrait se poser la question, mais quelle contradiction ! Pourquoi Dieu dit-il, va, pour ensuite, en chemin, alors qu'il est obéissant, vouloir le faire mourir ? Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et il y avait une alliance, c'est la raison pour laquelle je vous l'ai rappelé tout à l'heure, entre Abraham et Dieu. Et dans cette alliance qui s'est produite entre Dieu et Abraham, on trouve cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 17 et au verset 14. Eh bien, Dieu, d'une manière très solennelle, dit simplement ceci. Il établit le fait de la circoncision. C'est un signe qui doit caractériser tous les enfants d'Israël, tous les Hébreux. Et au verset 14, il dit « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Pour Dieu, la circoncision selon la chair, pour le peuple hébreu, est le signe d'une alliance. Pour nous, bien sûr, il y a une signification spirituelle. Et les prophètes, souvent, ont dit cela, « Circoncisez vos cœurs ». C'est-à-dire que la circoncision qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel, pour nous, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur, qui signifie quoi? Vous savez, quand Dieu a fait cela pour Israël, en supprimant, pardon, je vais être très simple et très clair, il n'y a pas de pudeur particulière à avoir, parce que la parole de Dieu parle aussi très clairement. En coupant ce petit bout de chair, il y a quelque chose qui intervient. C'est que tout ce qui pourrait se placer là et infecter le corps aurait pu avoir des conséquences, je dirais, pour les générations suivantes, en infectant aussi la personne avec laquelle un Hébreu pouvait avoir une relation. Et Dieu a ainsi fait qu'il y ait un signe particulier. Pourquoi la Bible dit maintenant « circoncisez vos cœurs » Parce que le virus du péché, l'infection du péché, qui peut se cacher dans notre cœur, peut avoir des conséquences terribles. Et c'est la raison pour laquelle la Bible insiste, même dans le Nouveau Testament, en n'utilisant pas les mêmes expressions, mais dit « recherchez la sanctification ». Et vous savez qu'il est dit « sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Et cette sanctification, bien nous pouvons l'obtenir par le moyen de la croix en Jésus-Christ. Cette croix qui fait une œuvre profonde quand nous avons compris tout le sens de la croix dans notre vie. Elle nous éloigne du péché et nous amène à prendre en considération tout ce qui pourrait être quelque chose qui nous handicape dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, dans les progrès que nous devons faire, dans la vie spirituelle. Et le péché constitue toujours un obstacle. Alors là, regardez, Dieu veut utiliser Moïse, qui va devenir, comme nous le savons tous, un législateur pour Israël en communiquant la loi qu'il va recevoir de Dieu. Lui va être un canal par lequel la loi de Dieu va passer. Il faut qu'il soit le premier à obéir à tout ce que Dieu a dit en traitant alliance avec Abraham. Et là, le texte semble nous révéler quelque chose. Il y avait deux enfants, mais il est parlé ici d'une action qui a été faite par Séphora sur un des enfants, ce qui nous laisse supposer que peut-être le premier avait déjà été circoncis. Mais vous savez, comme Séphora était une étrangère, elle n'avait rien à voir avec l'alliance d'Abraham. Et elle-même, eh bien, ne partageait peut-être pas tout à fait les mêmes convictions que son mari. Et comme elle ne partageait pas toutes les convictions de son mari, qu'elle le suivait peut-être par force, par obligation, peut-être avait-elle dit, ben celui-ci, on ne va pas le circoncire, parce qu'elle était au courant de la désobéissance. Puisqu'elle a dit à son mari, elle a compris, quand elle a vu qu'il était sur le point de mourir, que la raison pour laquelle il en était là, c'est qu'il n'y avait pas eu la circoncision. Alors, rapidement, elle a pris une pierre. Oh, ça fait peur quand on voit ça. Une pierre aiguë. Vous voyez, le premier à subir la conséquence d'une mauvaise décision, eh bien, c'est le fils. Je ne vous dis pas la souffrance qu'il a dû avoir. Et cette femme, elle a agi, mais elle a une expression dans sa bouche. Peut-être nous, on n'y prête pas attention, mais c'est une pique qu'elle envoie. C'est-à-dire, c'est une flèche. Elle est dans une certaine aigreur. Elle dit, époux de sang, par la circoncision, époux de sang. Mais vous voyez, c'est comme une sorte de répulsion qu'elle met en évidence à cause de la circoncision, qui est quand même un rite qui a été réclamé par Dieu dans l'alliance avec Abraham. Ce qui veut dire donc que Moïse, eh bien, il avait pris cette femme-là, qui était au commencement au moins, eh bien, une cause de souffrance, d'incompréhension. Et il y a eu entre eux des difficultés. Vous savez, mes frères et sœurs, je m'adresse ici à des chrétiens qui ont bien l'habitude de lire la parole de Dieu. Et peut-être cela peut paraître superflu, ce que je vais dire. Mais nous avons intérêt à prier pour notre jeunesse et pour les décisions qu'ils doivent prendre à ce niveau-là. Car bien souvent, ils s'unissent simplement parce qu'il y a un élan du cœur. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, mais oui, pour s'unir à quelqu'un, il faut d'abord aimer. Vous voyez, certains ont pris cette idée absurde que parce qu'on est chrétien, il faut surtout chercher quelqu'un de spirituel, même si on ne l'aime pas. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Dieu a mis des sentiments dans le cœur qui sont nobles. Il n'y a rien qui n'est pas noble dans le désir de se marier. Mais il y a aussi l'autre possibilité, c'est-à-dire de choisir simplement par la beauté, beauté extérieure, et ne pas tenir compte de ce que Dieu veut. Vous savez, je considère que être aidé par celle que Dieu a choisie, c'est un privilège sans pareil. Mais que quand on fait une erreur dans ce domaine, on peut aussi en souffrir toute une vie. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être attentionnés, je dirais, très attentifs plutôt à l'écoute de Dieu, qui est capable, quand nous nous trouvons face à une décision à prendre, de nous révéler ce qu'il veut. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous dire, même quand on se trompe, et ça peut arriver, je vais essayer de prouver à partir de l'expérience de Moïse que Dieu est capable, si on a un cœur noble, souple et qui est sensible à l'action du Saint-Esprit, de transformer même les mauvaises décisions en moyens de bénédiction. Nous allons essayer de le voir au travers de son expérience. Pour le moment, nous en sommes là. Elle a eu cette parole acerbe, et vous avez remarqué, dans un des passages que nous avons lus, il est dit que Moïse avait renvoyé cette femme. Il l'a renvoyée à la maison. Il l'a renvoyée chez son père, Jéthro, avec ses deux enfants. On pourrait dire, c'est dur ça, hein? Juste en passant, parce que ce n'est pas non plus mon propos ce soir. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu parle d'éventuelles et possibilités de séparation. Mais il faut savoir une chose. Si, par exemple, un inconverti accepte de vivre avec la convertie, je parle de ceux qui se sont mariés avant de connaître le Seigneur, eh bien, la Bible dit, il faut demeurer comme ça. Mais s'il n'accepte pas, écoutez bien, il peut y avoir la séparation. Il peut y avoir, parce que la Bible en parle dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Mais la personne ainsi doit savoir aussi qu'elle doit rester comme cela. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est fixé par Dieu et qu'on ne peut absolument pas transgresser. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste particulièrement là-dessus. Savez-vous pourquoi ? Parce que jamais comme aujourd'hui, on a entendu parler de tant de séparations et de divorces, pas seulement à l'extérieur. La France, elle est à ce niveau, presque un mariage sur deux voué à l'échec. Mais ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi dans l'Église. Et c'est terrible de voir ça. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, et les anciens parmi nous doivent le savoir. Je suis persuadé qu'ils seront d'accord avec moi. Il y a des années en arrière, on n'osait même pas prononcer le mot de divorce dans l'Église. Parce qu'on savait que la Bible elle-même est claire à ce niveau-là. Aujourd'hui, mais on parle de divorce, de remariage, avec une facilité, une aisance incroyable. Comme si Dieu avait changé. Mais non, Dieu ne change pas. Il y a des solutions. Et la solution, c'est de s'accrocher à Dieu, qui peut changer certaines situations. Alors on va voir. Elle est partie, elle est rentrée à la maison. Eh oui, mais heureusement. Jéthro, c'est un homme remarquable. Il a dû voir arriver sa fille et puis ses deux petits-enfants. Et il a écouté certainement ce qu'elle a pu dire. Mais cet homme-là, il avait déjà eu l'occasion de vivre des mois et des mois avec son gendre, puisque les deux enfants en question étaient nés dans la maison de Jéthro. Ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques années où Jéthro et Moïse ont eu l'occasion de se connaître. Et Jéthro avait dans son cœur la certitude que son gendre, c'était quelqu'un de spécial sur lequel Dieu avait mis une marque particulière. Alors, il a dû consoler sa fille, il a dû consoler ses enfants. Mais, à ce moment-là, il y a une nouvelle qui est arrivée. Parce que Moïse a continué son chemin. Il est arrivé en Égypte. Il y a eu la délivrance. Mais vous voyez, ça prend du temps tout ça. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte du temps que ça a demandé. Et puis ensuite, eh bien, Moïse, il a eu la joie de conduire ce peuple hors d'Égypte. Et à ce moment-là, et il ne faut pas sous-estimer, il y avait des moyens où la communication se faisait entre pays, entre tribus, entre nations, d'une façon formidable. Vous savez, c'était peut-être même par le moyen des caravanes, des voyageurs, des ambassadeurs de l'époque. Mais on écoutait les nouvelles. Vous savez très bien, parce que vous l'avez lu dans la parole de Dieu, que lorsque le peuple d'Israël est arrivé dans le pays de Canaan, chose étonnante, eh bien, toutes les nations avaient peur parce qu'ils avaient reçu des nouvelles, ils savaient tout ce qui se passait avec Israël. Et Jéthro a eu des nouvelles. Il a su que Dieu avait délivré le peuple par la main de Moïse. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend cette femme, il prend ses deux enfants et il dit « Allez, vous allez revenir avec moi, on va aller trouver Moïse ». Et ils sont arrivés au camp où se trouvait Moïse. Il y a quelque chose qui me surprend. et que je ne peux pas expliquer, alors pardonnez-moi, je ne le ferai pas. Mais il arrive là, et il est vraiment bien reçu par son gendre. Moïse, en tant que son beau-père est là, il va à sa rencontre. Et il a une communication avec lui qui est formidable. D'ailleurs, il va même organiser un festin en son honneur et il va inviter Aaron, Marie et les grands de ce temps-là. Et il va y avoir une joie immense. Il dit seulement, Moïse embrassa son beau-père. Je suis curieux. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir lire qu'il embrassa aussi Séphora. Mais ce n'est pas dit. Mais je suis quand même persuadé qu'il était content. Écoutez bien, mes frères et sœurs, il était à la veille, Moïse, d'une expérience exceptionnelle. Il était à la veille de connaître cette rencontre fabuleuse avec Dieu sur le mont Sinaï. Dieu lui avait parlé et lui avait dit « Parle au peuple et qu'il se sanctifie ». Et après 3 jours, il allait y avoir des déclarations qui ont eu des répercussions pour des siècles et des siècles à venir que nous connaissons, parce que la parole de Dieu nous rapporte ces choses-là. Et comme c'était un homme exceptionnel, eh bien, Moïse a dû obéir lui aussi, parce que Dieu avait demandé au peuple de se sanctifier. Et il y a un verset précis qui dit « Aucun homme ne doit toucher une femme » pendant cette période où vous vous préparez. Et Moïse, lui, était prêt à cela. Mais il y a un danger. Quand on est dans une telle consécration, quand on est dans une telle vision, et que l'on connaît les exigences de Dieu, il y a un danger. C'est de s'éloigner des réalités de la vie. Est-ce que vous me comprenez ? C'est-à-dire que certains peuvent être tellement pris par des choses super spirituelles qu'ils oublient qu'ils sont des êtres avec des besoins naturels, comme les autres. Et évidemment, vous voyez, Dieu, par son esprit, ne nous conduit pas dans un monastère. Mais il nous conduit pour que nous puissions connaître ce qu'est une vie normale avec les pieds sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jéthro, eh bien, il a eu raison. Je pense qu'il était conduit par Dieu quand il a ramené Séphora et ses 2 enfants. Il les a ramenés là parce que Moïse avait besoin aussi de comprendre certaines choses. Je vais vous dire ce qui s'est produit. Ce n'est pas évident au travers de ces premiers versets que nous avons lus et des 2 premiers textes que nous avons lus. Mais regardez par la suite ce que nous avons lu et qui est quand même aussi important. Justement, quand finalement il a reçu la possibilité de reprendre contact avec sa femme et ses enfants. Nous savons tout le reste de l'histoire. Mais quelques années peut-être plus tard, peut-être quelques années, je ne sais pas, il y a eu un problème dans la famille de Moïse. Le problème, c'est que Marie et Aaron ont cherché querelle à Moïse par rapport à la femme qu'il avait prise. Alors, certains commentateurs, sans aucun fondement biblique, disent « Oh, mais peut-être que Séphora était morte dans le désert et il s'était remarié. » Mais écoutez bien, quand je dis qu'elle était cushite, c'est parce qu'elle était... Les Cush, c'est un descendant de Cham, un des enfants de Noé, Sem, Cham et Japhé. Et Cush a comme territoire ce que nous appelons l'Éthiopie. Et c'était là que se trouvait justement cette femme, puisqu'elle était une descendante. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle éthiopienne dans ce texte, dans ce passage. On dit, il a pris une femme éthiopienne. Et remarquez bien, Marie et Aaron ne discutent pas avec la femme. Ils ne s'en prennent pas à elle, ils s'en prennent à Moïse. Mais ils sont injustes. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils disent que c'est à cause de la femme qu'il a prise. En réalité, il y avait une autre idée derrière leur tête. Il n'y a rien comme le cœur humain pour cacher certaines réalités. Mais la Bible dévoile, et qu'est-ce qu'ils pensaient à l'intérieur d'eux-mêmes ? Ils avaient parlé entre eux, et ils avaient dit, ce Moïse, pourquoi est-ce que c'est lui qui commande ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui dirige ? Pourquoi c'est lui qui a toujours la place là ? Est-ce qu'il n'y en a pas chez nous aussi qui sont capables de faire la même chose ? Ça, c'est pas le même sentiment, hein ? Et c'est drôle quand même, c'est le frère et la sœur qui parlent de cette manière-là. Aïe, 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 les membres de la famille. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi la famille de ce quelqu'un. Vous me comprenez ? Et des fois, c'est avec la famille de ce quelqu'un qu'on a aussi des problèmes. Et là, nous le voyons dans un sens particulier. Là, c'est du côté de Moïse que ça ne va pas. Mais le frère et la sœur parlent par rapport à la femme. Et Dieu vient au secours de Moïse. Et c'est là que je constate un fait. D'abord, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, Jéthro, quand il est arrivé, il a entendu Moïse lui raconter tout ce que Dieu avait fait. Jéthro s'est converti. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est dit, il a offert un holocauste à l'Éternel et il a commencé à servir Dieu. Eh bien, Séphora, qui a suivi son papa jusque-là, elle a vu son père agir de cette manière-là. Quelque chose s'est produit dans son cœur. Mais quelque chose s'est produit aussi dans le cœur de Moïse. Savez-vous pourquoi ? Parce que Dieu parle de Moïse et il dit, qui est semblable à Moïse ? Qui est patient et doux ? Doux, Seigneur, doux. Tu as oublié qu'il a tué l'Égyptien ? Il a fallu qu'il passe par une école. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse nous sanctifier autant que le mariage quand deux, on cherche le Seigneur, même si on ne partage pas toujours les mêmes points de vue. Mais vous savez ce qui arrive ? Moïse a appris et a reçu quelque chose, il est devenu patient à cause peut-être de certaines souffrances qu'il a dû endurer. Et Séphora, elle a changé d'attitude. Et la religion de son mari n'était plus quelque chose qui pesait sur ses épaules, dont elle était obligée d'accepter les rites et qu'elle le faisait plus par superstition peut-être ou par obligation que par amour pour Dieu. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, elle a changé. Maintenant, elle est fière de son mari et son mari, lui, il a mis de l'eau dans son vin et ils peuvent être ensemble. Ce qui veut dire donc que, vous voyez, le Seigneur peut accomplir des miracles formidables. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Et mes frères et sœurs, je vous demande de ne pas oublier de prier aussi pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, parce qu'ils font l'objet d'attaques particulières de la part de Dieu. Et le Seigneur est capable de maintenir des couples chrétiens debout et montrer à ce monde qu'avec le Seigneur, on peut être plus que vainqueur et connaître un bonheur véritable. C'est triste que ce qui a été prévu par Dieu pour que nous connaissions un bonheur véritable, et j'en sais quand même quelque chose, eh bien, soit malheureusement, dans certains cas, dans certaines situations, transformé en une occasion de souffrance permanente et constante. Ça, ça ne doit pas exister dans le peuple de Dieu. Et il faut demander au Seigneur qu'il agisse par son esprit pour qu'il y ait vraiment un travail dans les cœurs. Je voudrais vous dire, ce n'est pas mal des fois, ce n'est pas mal d'accepter même par force certaines choses qui vont dans le bon sens. Je vais terminer en utilisant un autre témoignage tiré de la Bible, mais non pas de l'expérience de laquelle nous venons de parler au travers de Moïse. Je lisais cet après-midi le cas de cet homme Simon de Cyrène. Vous savez, dont l'évangéliste Matthieu, autant que l'évangéliste Marc, nous dit qu'on l'a obligé, contraint à porter la croix du Seigneur. C'était un juif, je veux dire, quant à sa religion, puisqu'il était là et il pratiquait certainement cette religion, mais lui, il venait en sens inverse du cortège, triste cortège, qui suivait le Seigneur, qui était accompagné de ses deux brigands et qui portait leur croix jusqu'à ce mont Golgotha. Et comme Jésus, à un moment donné, a dû avoir un moment sur le plan physique de faiblesse, alors un soldat a pris avec une certaine rigueur cet homme qui revenait des champs, Simon de Cyrène, et l'a obligé à porter la croix. J'aimerais vous dire qu'il a dû grommeler plus d'une fois en portant la croix du Seigneur. Mais il est allé jusqu'au bout et il est resté là. Il a dû voir ce qui se passait sur le mont Calvaire. Et vous savez ce que nous apprend la Bible ? C'est que les deux enfants de Simon de Cyrène, l'un s'appelle Alexandre et l'autre Rufus, sont devenus des hommes de Dieu. J'imagine qu'en revenant du mont Golgotha, il avait quelque chose à apprendre à ses enfants. Et il a dû leur dire, vous savez ce que j'ai vécu ? Voilà ce que j'ai connu. Et il a raconté cette histoire. Et ses enfants, ils sont devenus quoi ? Ils sont devenus des hommes de Dieu. Paul en parle dans son épître aux Romains, chapitre 16, et il dit, saluez Rufus. Marc et Matthieu parlent de ces deux hommes. Donc, voyez-vous, même quand on fait quelque chose par obligation, il peut y avoir à un moment donné, eh bien, un travail qui s'accomplit, parce que le Seigneur, il est capable de tout utiliser pour briser un cœur et l'amener à une véritable repentance. Alors mes frères et sœurs, même s'il y a des choses qui vous coûtent cher, au niveau du foyer, au niveau de la famille, peut-être même à d'autres niveaux, des choses pour lesquelles vous courbez la tête et vous dites, mais je suis contraint, je suis contraint. Si vous êtes conscient que c'est quand même quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, persévérez, parce que vous allez voir comment Dieu, si vous invoquez son nom sincèrement, il pourra changer le fardeau en réelle bénédiction. Et ce ne serait pas la première fois que dans un foyer où il y a eu une œuvre terrible du malin pour essayer de détruire, d'anéantir et de démolir, Dieu est intervenu et quelque chose de nouveau est né. S'il est capable de faire naître de nouveau des hommes corrompus, ignobles, il est capable aussi de transformer un foyer. Est-ce que c'est vrai que pour Dieu, rien n'est impossible ? Alors voilà pourquoi nous avons de quoi prier ce soir. Que Dieu nous conduise. Nous allons invoquer le nom du Seigneur.